Salut, c'est Steven Jambot de l'Atelier des médias. On est ensemble pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous écoutez notre podcast. Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste. C'est le titre d'un documentaire qui a été diffusé dimanche dernier sur la chaîne française Canal+, et qui a beaucoup, beaucoup fait parler cette semaine.
Il me dit, j'ai vu ta photo, ça passe ton petit boule, on a envie de le croquer.
Là, je comprends tout de suite que ça va être un enfer, en fait.
Elle a grossi quand même depuis qu'elle est maman, là. Un petit peu de visage, on va peut-être plus la mettre à l'antenne.
Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, dénonce les violences sexistes que la journaliste sportive Marie Portolano et ses consoeurs subissent dans et à l'extérieur de leur rédaction. Plus d'une vingtaine de professionnels de l'information sportive racontent des expériences subies à Beansport, RMC Sport, France Télévisions, Canal+, TF1, mais aussi à L'Équipe ou encore à Radio France. Cela va des propos vulgaires et sexistes jusqu'à des agressions sexuelles, même en public lors d'émissions. Le tout sur fond d'insultes nourries sur les réseaux sociaux. Ce film courageux de Marie Portolano et Guillaume Prioux permet de montrer que certaines femmes dans le monde des médias se trouvent parfois dans des situations nauséabondes, par exemple au sein des encore très masculins services des sports. Le site d'information Les Jours, dont on parlait mi-février dans l'Atelier des médias, a révélé que Canal+ a coupé quelques passages du documentaire avant de le diffuser. Les séquences en question montraient un journaliste vedette de la chaîne mis en cause pour une atteinte sexuelle contre Marie Portolano, justement. Pierre Ménès, puisque c'est de lui dont il est question, disait ne pas se souvenir.
C'est quand même pas de bol pour lui, hein, parce que les rares fois où il arrive à faire quelque chose de ses 10 fois, il se gourre quand on lui demande son nom.
Sa direction a préféré l'épargner. Le mouvement MeToo de libération de la parole des femmes a démarré il y a maintenant 3 ans et demi. Il se poursuit. Les médias et ceux qui y travaillent se doivent d'être exemplaires. L'exemplarité, c'est de prendre les problèmes à bras-le-corps, de prendre des décisions. On peut se féliciter que des entreprises de presse prennent ces questions très au sérieux. Ainsi, une enquête interne a été ouverte à Radio France suite à des faits rapportés dans ce documentaire, dont je vous rappelle le titre « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste ». Vous écoutez RFI, une radio française de service public financée par la redevance audiovisuelle payée par les ménages français. Il y a en France un paysage médiatique pluriel, de nombreux titres de presse, des radios, des télévisions, des sites internet. Mais voilà, malgré tout, quelques actionnaires industriels jouent d'influence en s'emparant de tout ou partie de certains médias. On parle parfois même pour certains d'empire médiatique. L'invité que je reçois aujourd'hui rappelle que la vitalité d'une démocratie se mesure aussi dans l'indépendance des journalistes et des médias. Pour lui, l'information est un bien public. C'est d'ailleurs le titre du livre qu'il co-signe au Seuil avec l'économiste Julia Cagé.
L'Atelier des médias.
Bonjour Benoît Huette.
Bonjour.
Vous êtes avocat au barreau de Paris, cofondateur du cabinet Avrion Huette. Vous traitez souvent des questions juridiques relatives à la gouvernance des médias et à la liberté d'expression. On peut aussi préciser que vous êtes membre du comité juridique de Reporters sans frontières, RSF, et que vous enseignez dans une école de commerce qui s'appelle l'ESSEC. Votre livre, que vous co-signez avec Julia Cagé, donc, démarre par des constats et précise notamment qu'au nom de la liberté d'informer, on ne peut se satisfaire de la situation actuelle des médias. Expliquez-nous.
Alors, il est vrai qu'on constate depuis quelques années, ça s'est beaucoup accéléré depuis 10 ans, une concentration grandissante des médias entre les mains d'un certain nombre d'acteurs industriels, dont les médias n'est pas le métier premier, je dirais, avec pour corollaire la baisse des revenus publicitaires. Et la somme de ces deux facteurs fait qu'il y a progressivement une baisse du nombre de journalistes dans les rédactions, ce qui peut induire une sorte d'appauvrissement de la qualité de l'information, qui a notamment été constaté par ma co-auteure Julia Cagé, qui a publié un précédent ouvrage dans lequel elle démontrait que près des 2/3 de ce qu'on peut lire dans les médias sur Internet relève de simples copier-coller, de dépêches d'agence ou alors d'autres articles.
Est-ce que cette situation-là, elle est propre aux médias européens ou nord-américains, ou est-ce que c'est quelque chose de plus global dans le monde ?
Le phénomène est assez global puisqu'il est directement lié à la montée en puissance des réseaux sociaux qui ont accaparé les revenus publicitaires en mettant en difficulté les médias aussi bien en Europe qu'en Asie, qu'en Amérique du Nord, qu'en Afrique. C'est vraiment un phénomène qui est global, avec après, par contre, des particularismes locaux sur la façon dont on traite la question de la concentration des médias. Par exemple, en Australie, il n'y a plus que deux groupes privés qui détiennent la totalité des médias privés. En Argentine, il n'y en a plus que trois ou quatre. Et en France, on en est encore à peut-être huit ou neuf.
Et donc vous, avec Julia Cagé, ce que vous essayez de faire dans ce livre, c'est de rappeler des expériences à la fois en France et à l'international de gouvernance des médias. En gros, des gens qui essayent de trouver des solutions à ces constats et à cette situation qui est problématique pour nos démocraties.
Alors, en effet, il y a toujours une difficulté sur le fait qu'un média soit détenu par une société privée et par des actionnaires, puisque ces actionnaires ont nécessairement un pouvoir hiérarchique sur les dirigeants du média qui en ont eux-mêmes sur les journalistes de ce média. Or, les journalistes du média sont aussi tenus de suivre une déontologie et de participer à une mission d'information du public qui est parfois incompatible avec le lien hiérarchique qui les unit aux actionnaires. En conséquence, il y a eu pas mal d'initiatives pour essayer de trouver des façons alternatives de faire. On parle beaucoup dans le livre de transfert de médias à des organismes à but non lucratif, c'est-à-dire des associations, des fondations. Je peux par exemple penser au cas de Ouest France en France, qu'en 1990, le capital a été transféré à une association, ou plus récemment, Mediapart, qui a transféré la totalité de son capital à un fonds de dotation, c'est-à-dire un organe à but non lucratif qui n'a pas d'actionnaire.
Si on essaye de rembobiner un petit peu, est-ce que cette problématique, ce fait que ce soit des grandes fortunes qui possèdent des médias, j'ai l'impression que c'est pas si nouveau que ça, au final, depuis le début de la presse, il y a une centaine d'années, c'était déjà des patrons ou des personnes dotées d'un certain capital qui décidaient de créer leur entreprise de presse, non ?
Alors, en effet, historiquement, cela a toujours existé. On se rappelle du film d'Orson Welles, Citizen Kane. On peut se rappeler également que dans les années 70-80, en France, il y avait un certain Robert Hersan qui avait constitué un empire. On l'appelait le papivore parce qu'il rachetait systématiquement les titres de la presse quotidienne régionale. Et cette espèce de problématique de l'indépendance des médias face à ces actionnaires tout-puissants, elle se pose depuis très longtemps. Et d'ailleurs, la dernière fois qu'on a réformé la presse en France, c'est 1984-86, et c'était justement en réponse à la croissance du groupe de Robert Hersan.
Donc c'était avec des lois anti-concentration des médias, pour que justement il n'y ait pas beaucoup de médias entre les mains d'une seule et même personne. Et pourtant, eh bien actuellement, on a des empires qui se recréent. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, à votre avis, et le constat que vous avez avec Julia Cagé, c'est que vous estimez eh bien que la loi n'est plus adaptée à la situation actuelle des médias.
Alors, la loi n'a pas été réformée en profondeur, finalement, depuis la libération, depuis 1944, où de nombreux journaux avaient continué de paraître pendant l'occupation. Donc, il a fallu repenser totalement l'organisation de la presse en France, qui avait été fait et plutôt bien fait. Mais depuis, il n'y a jamais eu, en fait, de changement profond dans cette organisation. Alors même que, évidemment, l'Internet est apparu entre-temps, ce qui a beaucoup changé la donne. Donc, par exemple, les règles de concentration sur les médias en France ne tiennent pas compte du tout de l'Internet, ce sont des règles sur les journaux, sur les radios, sur la télévision. Et on voit bien qu'elles sont complètement dépassées par rapport à la situation actuelle et elles peinent un petit peu à répondre au mouvement actuel de concentration des médias.
Dans votre réflexion, vous vous appuyez sur quatre principes fondamentaux. J'aimerais qu'on les prenne les uns après les autres. Le premier principe essentiel pour vous, c'est la gouvernance démocratique des médias. Expliquez-nous.
Alors, c'est une idée qui n'est pas propre, je dirais, au secteur des médias, qui est portée par différents économistes, mais plus général pour tous les secteurs d'activité. Ça consisterait à imposer que la moitié des sièges dans les organes de gouvernance des médias soient occupés par des salariés, et dont deux tiers d'entre eux par des journalistes. C'est un petit peu le modèle à l'allemande ou à la scandinave, où on prévoit une gouvernance paritaire afin d'équilibrer les relations entre les actionnaires d'une part et les salariés d'autre part.
Donc, dans les conseils d'administration des médias.
Voilà, alors c'est quelque chose qui a déjà fait ses preuves. Il y a beaucoup d'études économiques qui ont été faites là-dessus, sur le fait que ça permet d'avoir des entreprises qui soient plus pérennes, qui aient des objectifs à plus long terme, qui vont privilégier en matière de médias la qualité de l'information, le maintien d'un lien de confiance avec le lectorat ou les auditeurs, plutôt que la recherche d'un profit à court terme, comme on a pu le voir récemment avec des groupes qui se sont constitués comme Reward Media, où on voit qu'il y a exactement l'inverse, c'est-à-dire la volonté de se défaire absolument des journalistes pour faire éditer les contenus par des personnes qui ne respectent pas la déontologie journalistique.
Deuxième principe fondamental, la généralisation du droit d'agrément pour les journalistes.
Alors ça, c'est un peu plus technique, mais c'est un des points les plus importants que l'on porte. Si vous voulez, pour faire simple, le droit d'agrément, c'est la faculté de se prononcer lorsque le journal ou la radio ou la télévision change de main, lorsqu'il y a un changement de contrôle. Alors, pour répondre à ce risque, en fait, qu'une personne extérieure prenne la main sur un média, il y a une solution très intéressante qui a été trouvée au journal Le Monde, qui a prévu que les organes de gouvernance dans lesquels les journalistes ont un poids important peuvent s'opposer au rachat du journal Le Monde et peuvent proposer un acquéreur alternatif, ce qui est une proposition qui nous semble particulièrement pertinente et que nous proposons d'étendre à l'ensemble des médias.
Troisième principe fondamental, la transparence dans la gouvernance et l'actionnariat. Parce que quand on essaye de se plonger justement dans l'actionnariat ou dans la propriété ou dans la structure, parfois juridiquement parlant, de certains médias et de savoir qui pèse combien, à quel pourcentage, c'est parfois compliqué.
Oui, alors c'est une information qu'on peut trouver, mais alors il faut vraiment bien chercher. Et alors si vous allez interroger un citoyen dans la rue ou vos parents ou votre grand-mère et que vous lui demandez à qui appartient le journal Le Point, ça sera probablement bien incapable de vous dire que ça appartient au groupe de François Pinault. Si vous demandez à quelqu'un à qui appartiennent les Échos, il ne saura probablement pas que ça appartient à LVMH. Et nous pensons que c'est un problème parce que ça contribue à créer une espèce de défiance. C'est-à-dire que les derniers baromètres montrent que le public peine à faire confiance aux médias, et pour que cette confiance soit regagnée, nous pensons qu'il serait indispensable que quelqu'un qui regarde TF1 soit au courant que ça appartienne à la famille Bouygues, que quand il voit un reportage sur la 5G, il sache que Bouygues détient Bouygues Télécom, qui détient une licence 5G. Pas parce que les journalistes de TF1 essaient forcément de nous induire en erreur. Bien au contraire, ils font probablement très bien leur travail. Mais simplement, le fait que cette information ne soit pas accessible crée un doute légitime, une suspicion qu'il faut absolument effacer.
Pour que chacun sache qui parle, mais aussi d'où l'on parle et comment on se positionne par rapport au sujet. Et enfin, dernier principe fondamental, c'est le fait qu'il y ait une taille minimale pour les rédactions qui, comme vous le disiez tout à l'heure, deviennent parfois de plus en plus faméliques.
Voilà, alors il y a un système en France d'aide à la presse qui est assez vertueux, parce que nous expliquons que l'information est un bien public. Et comme c'est un bien public qui est indispensable pour la démocratie, il est légitime que l'État vienne soutenir les médias. En revanche, nous pensons que les aides à la presse ne doivent pas venir sans contrepartie. Et notamment, il nous paraît anormal que l'État vienne aider un soi-disant journal qui est en fait vidé de ses journalistes, qui ont été remplacés par des stagiaires qui produisent un contenu automatisé.
Là, il faut expliquer pour les auditeurs qu'en France, il y a un principe d'aide à la presse, justement, avec des fonds qui sont alloués aux médias. Et est-ce que vous proposez, vous, qui sont alloués par l'État aux médias, donc pour c'est une aide d'une certaine façon à la pluralité des médias, mais vous proposez de refondre totalement ce système?
Les aides à la presse, c'est quelque chose qui est très ancien. Il y a des aides au transport par la voie du chemin de fer. Il y a des aides au portage postal, par exemple, pour que les journaux n'aient pas à payer les timbres pour aller être livrés chez leurs lecteurs. Et tout ça est un petit peu désuet et, en outre, pose un problème aussi de lien avec l'État qui se retrouve à choisir entre aider tel ou tel média. Et du coup, pour éviter de tomber dans ce biais, ce que nous proposons, c'est de redonner le pouvoir aux citoyens, de passer par un mécanisme de financement participatif qui consisterait à dire « Aujourd'hui, l'État donne tant de centaines de millions aux médias chaque année. Nous proposons que chaque citoyen ait un bon de 10 euros et qu'il choisisse par lui-même le journal qui lui paraît pertinent d'aider. »
Donc on ne change pas du tout le montant de ces aides à la presse, simplement leur mode de distribution qui entre entre les mains des citoyens, c'est bien cela ?
Exactement. C'est une façon de aussi que les citoyens s'intéressent à leurs médias, s'intéressent à leurs structures et participent directement à leur financement sans que l'État n'ait à intervenir d'une quelconque manière.
Est-ce qu'on ne passe pas d'un système compliqué à un nouveau système un petit peu plus compliqué et où les médias devront d'une certaine façon en plus faire de la publicité pour essayer d'obtenir les fonds du grand public? Est-ce que vous ne craignez pas qu'un média comme Le Monde, par exemple, rafle tout?
Alors, nous proposons précisément dans le livre qu'un média ne puisse pas tout rafler en mettant en place un système de plafond afin que la distribution de ces aides soit équitable entre les médias. Après, on est tout à fait ouvert pour discuter un petit peu de la mise en œuvre pratique de ces règles. Ce qui serait déjà bien, c'est qu'on puisse se mettre d'accord sur le principe général de ce financement participatif qui redonne le pouvoir aux citoyens.
Alors, votre livre, dont je rappelle le titre « L'information est un bien public », co-signé avec Julia Cagé, contient une proposition de loi. En gros, vous proposez un texte avec l'idée qu'il soit repris par des élus. Où est-ce qu'on en est ?
Alors, nous proposons en effet une loi de démocratisation de l'information avec un certain nombre de propositions. L'idée, c'est de donner un petit peu les outils aux éventuels politiques qui voudraient s'en emparer.
Donc, vous l'avez adressé à Jean-Luc Mélenchon, mais vous l'avez en gros adressé à pas mal de représentants du spectre politique français.
Ah oui,
y a-t-il des retours ?
Très largement à différents responsables politiques français. Il y a des retours, puisque déjà sur cette question des aides à la presse, il y a une mission qui est en cours, qui a été demandée par le ministère de la Culture. Il y a un intérêt qui a été porté justement à ces propositions que nous faisons sur, par exemple, les bons pour l'indépendance des médias. Et ensuite, nous ne faisons pas de politique. Le but, c'est justement que ce soit des politiques qui s'en emparent. On a un débat qui va arriver en 2022 sur les présidentielles et législatives. Et nous serions ravis que ces propositions puissent être reprises.
En tout cas, quand on parle de médias, c'est toujours éminemment politique. C'est ce qu'on se rend compte en lisant votre ouvrage.
Alors oui, les médias est un sujet qui divise profondément. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une grande frilosité du législateur pour intervenir sur ce sujet. Les débats avaient été sanglants tant en 84 qu'en 86 quand le débat avait été mis sur la table. Je pense qu'il y a aussi une certaine inquiétude des politiques d'adresser le sujet des médias puisque ils dépendent beaucoup des médias pour porter leur message et que ils n'osent pas forcément se confronter à cette situation qui pose pourtant problème et qui nécessiterait à notre avis une loi.
Y a-t-il dans le monde des exemples de médias qui, à votre avis, sont bien gérés, bien gouvernés, dans lesquels les journalistes peuvent pleinement s'épanouir, mais également les audiences y trouver leur compte ? Vous avez cité tout à l'heure Mediapart, qui je crois est un exemple pour vous et puis pour Julia Cagé. Y en a-t-il d'autres à l'international qui vous semblent dignes d'intérêt ?
Alors, nous en citons différents dans le livre. On peut penser bien sûr aux grands journaux américains comme le New York Times d'une part, et le Washington Post, d'autre part, qui ont tous les deux fait le choix d'investir massivement dans l'embauche de journalistes pour jouer sur la qualité de l'information qui est produite aux lecteurs. Et ça fonctionne, puisqu'on voit bien que quand ils embauchent des journalistes, ils arrivent à développer leur lectorat.
Oui, mais derrière le Washington Post, il y a Jeff Bezos. Derrière le New York Times, il y a encore une grande famille.
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, d'ailleurs, ce que nous disons dans ce livre, c'est que c'est indépendamment, finalement, de la structure juridique et de la nature de l'actionnariat. Ce qui compte, finalement, c'est la façon dont l'indépendance de la rédaction a été organisée au cas par cas. Par exemple, Le Monde aussi appartient à des grands industriels et pourtant, ces journalistes travaillent tout à fait librement et produisent un travail d'une grande qualité. C'est la même chose avec le New York Times ou avec le Washington Post. Dans les autres modèles qu'on met en avant, il y a un modèle britannique qui est bien connu, qui est celui du Guardian, qui a la particularité, pour le coup, d'appartenir à un trust, c'est-à-dire une sorte de fondation à but non lucratif, et dotée d'une somme assez importante et qui permet d'assurer la pérennité du journal dans la durée. C'est le modèle qui a été aujourd'hui un petit peu copié par Mediapart, qui a voulu s'en inspirer pour justement pérenniser ce journal pour qu'il puisse se poursuivre dans le temps indépendamment de ses fondateurs.
Et ce qui est toujours aussi important, c'est d'associer les audiences, y compris dans le financement du modèle économique du média.
Sur le modèle économique, on voit bien qu'il y a une grande erreur qui a été faite au cours des 20 dernières années, ça a été de se dire qu'on allait pouvoir donner l'information gratuitement et qu'on allait se rémunérer sur la publicité. Tous ceux qui ont essayé de faire ça n'ont pas réussi et au contraire, ceux qui ont réussi à rendre leur journal rentable, et il y en a en fait pas mal, l'ont fait grâce aux abonnements et en fidélisant un lectorat ou en mettant en place un mur payant, et on voit bien que ce sont ces modèles-là qui réussissent aujourd'hui et qui se répandent.
J'ai rarement au micro de l'Atelier des médias un avocat, Benoît Huet, avocat au barreau de Paris. On ne peut pas ne pas parler de la situation de la liberté de la presse dans notre pays. La France est 34e au classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Avez-vous, vous, noté dans votre activité d'avocat une évolution ces dernières années justement sur les questions de liberté de la presse, y compris sur la voie publique ?
Alors oui, il y a vraiment deux situations distinctes. Il y a celle des grands journaux, je dirais, où il y a, hormis cette question de l'interférence éventuelle d'un actionnaire, les choses se passent relativement bien. On a de la chance d'avoir une justice de grande qualité en matière de presse en France. On a une chambre spécialisée, par exemple à Paris, qui s'appelle la 17e chambre, avec des magistrats de très haut niveau et qui permet de traiter des questions d'injures publiques, de diffamation publique, avec beaucoup de sérénité, en prenant le temps d'examiner les choses. Et à côté de ça, il y a cette question de la liberté d'expression appliquée plutôt aux réseaux sociaux ou même même à la voie publique, comme vous le mentionnez. Et là, on est en effet dans une espèce de grand espace d'impunité que le législateur peine beaucoup à adresser, à résoudre. Il y a beaucoup de personnes qui sont victimes d'attaques extrêmement violentes. Il y en a d'autres sur les mêmes réseaux sociaux qui sont victimes de censure, puisque on voit bien que ces réseaux viennent à fermer des pages du jour au lendemain sans explication. Et je crois qu'il est urgent de forcer aujourd'hui ces réseaux sociaux à être beaucoup plus transparents sur leur activité, à nous donner un petit peu les clés de leurs algorithmes pour comprendre comment ils fonctionnent et les forcer à s'expliquer sur les choix qu'ils font en matière de modération du contenu qui peut parfois s'avérer être de la censure.
Et à veiller aussi à ce qu'il y ait de l'exemplarité sur la voie publique, par exemple, de la part des forces de l'ordre.
Ah, alors ça, c'est un autre sujet, c'est celui de la loi sécurité globale. En effet, il y a ce projet de loi où il a été suggéré que l'on ne pourrait pas filmer des policiers sur la voie publique, ce qui paraît une pratique, une réforme qui n'a pas du tout sa place en France dans une démocratie. Il faut que les citoyens soient en mesure d'évaluer ce que font les forces de l'ordre et qu'elles puissent en rendre compte publiquement s'ils le souhaitent. Et ces forces de l'ordre, pour la plupart, se comportent extrêmement bien. Mais il est nécessaire pour tout le monde qu'on puisse identifier les comportements déviants et à risque.
Merci Benoît Huette.
Merci beaucoup.
Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris. Le titre du livre que vous co-signez avec l'économiste Julia Cagé, c'est « L'information est un bien public ». Il est paru aux éditions du Seuil. After the show, yeah. But okay, me and me commando, yeah. L'Atelier des médias, c'est l'émission qui parle des évolutions, révolutions des médias à l'ère numérique. On vit dans une époque passionnante pour ce secteur, avec une diversité de formats, des enquêtes de plus en plus fouillées, abouties, mais dans le même temps, économiquement difficile pour les médias. Et puis la défiance envers les journalistes s'accentue dans de nombreux pays à travers le monde. La liberté de la presse recule parfois dans certains pays. Dans cette période plutôt trouble, des actrices et acteurs du monde des médias, qu'ils soient reporters, blogueurs ou autres, continuent de travailler avec courage et détermination. CFI, l'agence française de développement média, filiale de France Média Monde, propose un podcast d'entretien avec une dizaine de ces personnalités. Elles viennent de Birmanie, du Liban ou encore de Côte d'Ivoire, comme Anderson Diedry, qui a fondé en 2016 le site Eburny Today, spécialisé dans le journalisme d'investigation et le fact-checking. Je vous propose de l'écouter.
Lorsqu'on lance Eburny Today en 2016, dans le contexte ivoirien, on a beaucoup de médias qui traitent l'actualité et très peu vont consacrer du temps pour faire des enquêtes, des reportages sur des sujets importants aussi, hein, qui peuvent toucher les populations, les problèmes qu'on peut avoir en termes de gouvernance, en termes d'accès aux services, tout ça. Donc, comment faire produire du contenu qui peut concerner ces sujets importants, notamment avec des enquêtes.
Correspondance, les artisans de l'info, est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur cfi.fr. C'est bientôt la fin de cette émission, l'heure de Monde Blog Audio qui donne à entendre les blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Partons au Burkina Faso, où Amos Traoré nous explique que le monde agricole se tourne vers le modèle de l'agroécologie en raison de la pandémie de Covid-19.
Bien avant la crise du coronavirus, les pays du Sahel faisaient déjà face à de nombreux défis sur le plan alimentaire, notamment à cause de la sécheresse et de la situation sécuritaire. Depuis quelques années, une partie de la population, contrainte de se déplacer, a abandonné les terres agricoles, qui a provoqué une perte significative des rendements. Ajoutant à cela la pluviométrie capricieuse et la dégradation des sols, le Burkina Faso se retrouve désormais avec une production agricole insuffisante. Aujourd'hui, la pandémie de coronavirus met en évidence la vulnérabilité des systèmes de production et de distribution des denrées alimentaires dans les pays du Sahel. Et on constate donc aujourd'hui que la politique agricole du Burkina Faso n'est pas suffisamment solide pour affronter les effets d'une telle crise sanitaire. Le Burkina Faso est un pays enclavé qui dépend fortement des importations pour s'approvisionner en riz, farine, lait et huile. Ces produits viennent des pays côtiers voisins. Et comme le Burkina a développé ce système d'importation de produits de base, il a délaissé la production locale. L'arrivée du Covid-19 a alors mis en évidence la fragilité du modèle agricole conventionnel du pays qui a clairement atteint ses limites avec la crise sanitaire. En raison des mesures liées à la lutte contre la propagation du coronavirus, la fermeture des frontières, la mise en place du couvre-feu et de la quarantaine, les produits agricoles issus de la culture de rente, sorgho, mil, maïs, riz et coton, ne peuvent plus sortir du pays. Conséquence, ces denrées pourrissent faute d'infrastructures de stockage. Les agriculteurs voient leurs activités chuter de façon drastique et leur capacité financière est fortement réduite. Depuis plusieurs mois, ravitailler les zones internes du pays devient difficile. Le ravitaillement, la distribution, c'est vraiment l'une des grandes failles de notre organisation. Heureusement, certains paysans ont tout misé sur un autre modèle d'agriculture, l'agroécologie. Le modèle agroécologique consiste en une agriculture responsable en phase avec la biodiversité pour une production saine et de qualité. L'une des spécificités de ce système agricole consiste à mettre en culture des plantes amies ensemble pour qu'elles se protègent mutuellement des ravageurs. L'exploitant n'a donc pas besoin d'utiliser de pesticides. Ce système de production agricole permet plus d'autonomie et moins d'importation. Et on voit la différence depuis le début de la crise sanitaire. Faute d'avoir des légumes et fruits frais en quantité suffisante, les populations locales, notamment dans les grandes villes, ont pris d'assaut les fermes agroécologiques. Les paysans cultivent leurs propres semences et fabriquent leurs engrais à partir du fumier et du compost. Les produits issus de ce modèle agricole sont vendus en circuit court, directement de la ferme au domicile des clients ou sur des marchés et quasiment au même prix que ceux du commerce. Rappelons que le Burkina Faso aurait pu devenir une référence de l'agroécologie dans les années 80 si l'œuvre du défunt président Thomas Sankara avait été poursuivie. À cette époque, Thomas Sankara avait décelé le potentiel de l'agroécologie pour rendre son pays autosuffisant sur le plan alimentaire. Il était très en avance sur son temps. 40 ans après, il aura fallu qu'un virus nous tombe dessus pour que le Burkina Faso renoue avec cette idée et s'ouvre sérieusement à l'agroécologie.
mondoblog.org.
C'était le mondoblogueur burkinabé Amos Traoré du blog Persévérance. Plus d'infos sur mondoblog.org. L'agroécologie, c'est aussi le respect de l'environnement. Aussi, je vous mentionne le lancement à venir d'une newsletter consacrée à la révolution climatique. Climax, c'est son nom, sera porté par l'équipe de Tech Trash. Ses auteurs promettent qu'elle sera, je cite, « plus chaude que le climat », c'est dire. Une campagne de financement participatif est en cours sur la plateforme KissKissBankBank. C'est la fin de cette émission que vous pouvez écouter en version longue sur toutes les plateformes de podcast. Spotify, Deezer, Castbox, Podcast Addict, TuneIn ou encore Apple Podcast. Si vous aimez l'atelier des médias de RFI, donnez-nous 5 étoiles sur ces applications, cela nous permettra d'être visible et donc encore plus écouté. Écrivez-nous via les réseaux sociaux ou à l'adresse atelier@rfi.fr. Merci à Simon Decreuse qui a réalisé comme chaque semaine cette émission et à Pauline Linard-Casanave qui a orchestré Mondoblog Audio. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.